RCF, il est 22h.
Nous sommes de retour avec ce soir notre invité Claude Lemel autour de la question de la chanson française et de la place que cette question occupe dans votre vie. Alors, nous allons écouter à présent Isabelle Aubray. Isabelle Aubray, extraordinaire chanteuse, peut-être un peu oubliée, mais Claude va me dire que c'est pas vrai, peut-être un peu oubliée aujourd'hui, et on va écouter une très belle chanson, Des Cornouailles à l'oral. Isabelle Aubray.
Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Un grand espace, un grand espoir pour tes violons et ma guitare, pour tes tziganes et mes gitans, la même flamme en même temps. Hier la guerre et aujourd'hui un grand concert qui nous conduit à l'horizon, à l'arc-en-ciel, à la chanson universelle, la chanson universelle. Des cornouailles à l'oral, imagine la chorale, sans frontières, sans empire, tu verras le délire. On fera plus de bruit que des siècles de nuit. Imagine le frisson, imagine la chanson. Sonne l'heure de l'amour à la porte de Brandebourg. Le mur tombé, il faut qu'on aille voir comment tombe la muraille. On va ranger dans les musées les barbes bleues, les barbelés, les faux messiles, les vrais missiles pour le défi de l'an 2000, le défi de l'an 2000. Des cornouailles à l'oral, imagine la chorale, sans frontières, sans empire, tu verras le délire. On fera plus de bruit que des siècles de nuit. Imagine le frisson, imagine la chanson. Des corons au corail, imagine la chorale, des mosquées aux chapelles, tu vas voir le gospel, qu'on croit au ciel ou à rien, qu'on soit fidèle ou païen, à partir du duo, tout chante.
Isabelle Aubray, des cornouailles à l'oral. Et oui, on peut rêver, imaginer d'un monde qui ne soit qu'une chorale de paix. Ça ferait du bruit, un autre genre de bruit. Alors, Claude, la genèse de la chanson, et puis un petit mot pour Isabelle Aubray.
Bah, Isabelle Aubray, je l'aime, tout simplement. Elle a arrêté de chanter l'année dernière. Elle a fait son dernier concert dans le Nord.
D'accord.
L'année dernière, au mois de mai. Bon, moi j'aimerais bien qu'elle remette ça.
Ben, ce serait bien, on peut l'inviter.
Et
on peut l'inviter.
Je ne suis pas le seul à en avoir envie. Oh, la genèse de la chanson est très simple. C'est une mélodie qui a été composée par Serge Santis, qui était l'ami d'Isabelle, et oui, par Gégé Candy, qui était le mari de Vava. Vava étant ma première épouse, voilà.
D'accord.
Donc, le premier mari de Vava a mis des paroles sur une musique du deuxième mari.
Je m'y perds un peu, mais...
Oh, c'est très simple, c'est une chanson parfaitement conjugale.
Ouais, c'est voilà. Ça, c'est tout ce qu'il faut retenir.
J'ai écrit donc ce texte tout seul sur la musique de Gégé Candy et de Serge De Santis. Oh, c'est une chanson, oui, un peu utopique, un peu naïve, oui, mais j'aime bien ces chansons.
Mais on a besoin.
J'aime bien. On a besoin de rêver un petit peu, surtout dans un monde très difficile.
Oui, qui n'est pas forcément un monde...
Ça ne m'a pas empêché d'écrire aussi La Bête Immonde, qui est évidemment nettement moins optimiste que Des Cornouailles et l'Orade.
Oui. Question d'angle, encore une fois.
Totalement. C'est exactement ça.
Ouais. Alors Luc au téléphone qui nous appelle des Ardennes justement du Nord.
Oui bonsoir Frédéric, bonsoir Claude. Merci pour cette émission et surtout l'édition de Claude, c'est quand même formidable de connaître tous ces auteurs. Mais moi seulement c'est Barbara. Barbara, et une de ses chansons, un peu comme notre amie bretonne qui est à l'antipode des Ardennes, c'est L'Aigle Noir. On était passionnés par cette chanson de mon épouse, sans savoir exactement le sens qu'elle portait. C'est bien après qu'on a compris que c'était quand même un viol de Barbara, un inceste. Et cette chanson m'a toujours porté, et malgré que nous ayons eu le sens profond, et d'ailleurs qu'on le lit très bien dans les paroles, eh bien elle est restée quand même marquée, et chaque fois qu'elle passe à la radio, c'est un enchantement pour moi et mon épouse d'écouter cette chanson. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a une romance et il y a surtout une mélodie qui est super belle avec des relances qui sont quand même formidables.
Alors Luc, l'orchestration est magnifique. Faut pas oublier l'orchestrateur.
En fait, on est déjà l'orchestration suffit en elle-même, mais les paroles sont aussi très très belles. Elles marquent.
Une voix.
Vous parliez de l'environnement musical. Bien sûr que la chanson, elle est très belle en soi. Les paroles et la musique, c'est incontestable. Mais de là, dans cette chanson-là, l'orchestration apporte beaucoup.
Alors, Claude, est-ce que c'est un métier d'orchestrer une chanson?
Évidemment.
Alors, expliquez aux auditeurs.
C'est un grand métier, grand et beau métier. Parce que la plupart du temps, les auteurs, les compositeurs, apportent des petites mélodies jouées juste au piano ou à la guitare. Après, l'orchestrateur en fait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Moi, j'avais un grand ami orchestrateur qui était Alain Goraguer. C'est un homme absolument exceptionnel. Il nous a quittés l'année dernière, à 91 ans. J'ai été très, très, très heureux d'être l'ami de ce monsieur. Il a fait, les orchestrations innombrables pour des gens extrêmement différents, puisque il a démarré avec Boris Vian. Je pense que tout le monde le sait. Mais ensuite, il a fait l'orchestration de tous les premiers albums de Gainsbourg, des 45 tours de France Gall, puis Ferra. Il a fait tout Ferra. Tout Ferra, c'est lui, des orchestrations. Reggiani, la plupart. Mouskouri, la plupart. Mais aussi des orchestrations plus ponctuelles, comme celle d'Inch'Allah, qui pour moi est sans doute la meilleure chanson d'Adamo. L'orchestration du Metek, qui est quand même la chanson qui a lancé Georges Moustaki.
C'est simple, mais
c'est magnifique. Sans oublier, évidemment, son fameux Toutou Youtou, tout de même, parce que ça, c'est lui. Et quand même, la dernière personne pour qui il a travaillé dans les années 2000, c'est Abdelmalik. Donc sa carrière à Alain Goraguer va de Boris Vian à Abdelmalik. C'est extraordinaire. Ouais. Et parlons aussi de l'orchestrateur de Jacques Brel, parce que François Robert a eu une immense importance dans la vie et dans la carrière de Brel, parce que quelquefois les mélodies de Jacques juste à la guitare, c'était plutôt moyen. Quand on pense à Mathilde, par exemple, la façon dont Robert a habillé Mathilde, c'est extraordinaire, avec ces solos de trompette. Ça reste dans l'oreille, bien sûr que les orchestrateurs ont une immense importance. Je pense à Jean-Claude Vanier, je pense à Michel Colombier, je pense à des gens comme ça. Ouais. C'est un vrai métier parce qu'en général, nous, ce qu'on leur apporte, c'est juste une mélodie avec quelques accords sur une guitare et puis un texte.
La colonne vertébrale.
Eux, ils habillent tout.
Ils mettent la chair.
Ah oui, c'est très, très important.
Merci, Luc, de votre appel.
Mais, Merci, merci de toutes ces explications, parce qu'en fait, ça me donne une explication sur la chanson de Barbara, qui est si belle. Donc, c'est l'orchestration, mais c'est formidable. Merci et bonne soirée à vous.
L'orchestration contribue largement. Ça n'est pas que l'orchestration, bien entendu. La chanson en soi, elle est très, 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 très belle. Personne ne le conteste, mais dans cette chanson-là, l'orchestration apporte vraiment quelque chose.
Exactement. Ouais.
Merci. Merci beaucoup, Luc.
Bonne soirée
merci.
À vous.
On pourra peut-être parler aussi peut-être du rôle de l'arrangeur aussi, un ingénieur du son, les arrangeurs.
Ah, ça, c'est autre chose.
Là, c'est le studio.
L'arrangeur, c'est l'orchestrateur. C'est, ouais. c'est voilà. la même personne. Voilà. Mais la prise de son, voilà. c'est très c'est important très aussi, important. Bien sûr, voilà. évidemment.
Alors, Marie. Marie.
Oui.
Qui nous appelle d'Annecy.
Marie.
Oui, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir Claude, bonsoir.
Bonsoir.
Tous les auditeurs, les auditrices, tous ceux qui écoutent.
Oui.
Alors, ce soir, le thème, c'est la chanson française.
Et la place qu'elle a dans votre vie, Marie.
Ah, ben là.
Moi, je dirais même en général la chanson, oui, la puisqu'on parlait des Beatles tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
Bon, bien qu'étant un amoureux de la chanson française, oui. les Beatles ont eu une grande importance dans ma vie, bien entendu. Oui. Et d'ailleurs, je vais aller voir Paul McCartney le 4 décembre à Paris.
Bon. Ah, ben, 4 jours avant moi. Il faudra que je me fasse remplacer, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, donc, dites-nous, Marie. Dites-nous.
Alors, j'écoute la chanson française depuis l'âge de 3 ans.
Oui. Ah oui, ça fait quelque temps.
À 3 ans, c'était la guerre, en 1943.
Oui.
Mon père était prisonnier en Allemagne, dans un stalag.
Oui.
Et sur la table de la cuisine, il y avait un poste de radio.
TSF.
À Ajaccio.
Oui.
On ne pouvait prendre que Radio Monte Carlo.
Oui.
Ma mère était tranquillisée parce que bon, mon père était prisonnier, donc voilà, il y avait moins de risques qu'il se fasse tuer.
Oui.
Et donc, elle ouvrait le poste et toute la matinée, bon, j'écoutais. Donc, je connaissais tous les chanteurs.
De cette époque.
De l'époque, et j'ai toujours continué à avoir un poste de radio qui m'a suivi partout.
Alors Marie, qu'est-ce que vous écoutiez à l'époque ?
J'en ai, tous les tubes qui passaient, de Charles Trenet, de Tino Rossi, enfin tous les chanteurs
de cette époque-là,
de cette époque, et puis... j'ai toujours...
Jean Sablon, peut-être, vous aimiez Jean Sablon ?
Oui, bien sûr. Bon, ben, je me souviens pas de tous les tubes, mais j'ai continué tout le temps à écouter la chanson française.
Alors, Marie, est-ce que vous écoutez encore aujourd'hui de la chanson française ?
Moins.
Ah, moins.
Parce que je suis tombée sur RCF depuis 2 ans, et j'écoute cette radio. Voilà. Je vais pas tenir l'antenne longtemps, mais voilà.
Vous avez peut-être, Marie, une petite question à poser à Claude qui est là.
Oui, voilà. Oui.
Alors, dites-nous.
Alors, je vais vous demander si vous arrive ou il vous est arrivé de regarder cette émission de Voice. Ah. Adultes et enfants.
Oui.
Non.
Non,
je ne regarde pas parce que vous savez, je fais de la chanson toute la journée. Alors je ne vais pas en plus me distraire et passer mes loisirs à regarder les chansons.
Voilà.
Bon,
alors,
moi je regarde des émissions d'histoire parce que je suis un passionné d'histoire, donc je suis abonné à toutes les chaînes historiques. Et aussi quelques films. Oui. Mais bon, très honnêtement, faisant de la chanson toute la journée... si vous voulez bien me laisser parler, faisant de la chanson toute la journée, je ne vais pas en plus passer mes loisirs à regarder. Bon.
Oui.
Alors il y a des gens qui font The Voice qui m'appellent, par exemple, pour avoir un rendez-vous, me demander si je veux bien écrire pour eux. Là, évidemment, je les reçois avec grand plaisir.
Oui.
Je travaille actuellement pour un jeune garçon qui a gagné The Voice cette année, qui s'appelle Alphonse. Bon. Voilà, bon, c'est un garçon de 17 ans, extrêmement sympathique, très talentueux.
Ouais.
Mais l'émission elle-même, non, honnêtement, je la garde pas, je suis désolé.
Oui.
Mais moi non plus, je ne la regarde pas.
Alors de quoi parle-t-on, Marie ?
Je ne regarde que les demi-finales et les finales.
Ah bah,
pour
quand même.
Voir ce que chantent actuellement les jeunes.
Oui.
Eh bien, je vous dirai franchement que que entendre ces voix qui gueulent, excusez-moi, mais je dis qui gueulent, eh bien, moi, ça ne me plaît pas. Oui, voilà. Alors, je n'aime pas les chansons des chanteurs actuels. Rares ceux sont ceux qui me plaisent, parce que les paroles, on ne les comprend pas.
Ah, oui. Articulation.
Ça ne me plaît pas. Moi, je suis peut-être démodée, mais...
Non, mais on a le droit d'aimer des chansons.
J'aime tous les chanteurs. J'ai beaucoup de CD. Vous parliez tout à l'heure de Nana Mouskouri. Moi, oui. J'ai beaucoup de vinyles d'elle. Oui. Et puis, tous les chanteurs des chansons françaises. Sardou, je ne l'ai pas. Mais j'aime beaucoup ses chansons. Mais j'ai Jacques Brel, j'ai Brassens en album avec voilà. Et puis Edith Piaf, voilà.
Et puis vous savez, Marie, ce qui est formidable avec la chanson, c'est qu'à un moment donné, on peut se promener quelque part et puis avoir une voiture qui s'arrête avec quelqu'un qui écoute à la radio une chanson ou dans un magasin, et puis ça peut être un jeune chanteur et vous allez avoir un choc en disant ça c'est génial.
Il y a des jeunes chanteurs qui me plaisent.
Ben oui, voilà. Kenji Girac, par exemple, il plaît à tout le monde. C'est génial. Kenji Girac, un chanteur qui a des souches un peu gitanes et qui joue de la guitare.
Ah oui, oui.
Ah, vous voyez, oui, il plaît beaucoup aux gens. Il est...
Oui, voilà.
Ouais, oui. Voilà.
Oui, ce chanteur, oui, je l'aime bien.
Ben, par exemple, voilà. Ou alors le petit Vianney, il est bien, le petit Vianney, avec sa guitare, tout
Christophe
ça.
Christophe Maé.
Voilà, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de jeunes. Ça fait déjà beaucoup de jeunes.
Oui, oui.
Voilà, je vous laisse, Marie, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs ce soir qui veulent passer à l'antenne.
Oui, et plus beaucoup de temps.
Et peu de temps. Merci. On va peut-être continuer, parce qu'on est bien avec Claude, on va peut-être continuer jusqu'à 2h du matin. Non, c'est une blague. Alors, donc, au revoir, Marie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et nous avons maintenant à l'antenne Mireille, qui nous appelle de Caen.
Oh là, c'est un prénom qui m'est cher, ça, Mireille.
Ah oui, Mireille.
J'ai démarré au petit conservatoire avec Mireille, j'adorais.
Elle avait l'air sévère, mais elle n'était peut-être pas
sévère.
Elle
n'était pas.
Non, pas ça. Alors, donc, Mireille.
Oui, bonsoir à tous et merci beaucoup pour vos émissions.
Merci à vous.
Bon, je suis âgée, j'ai la voix couverte, excusez-moi.
Non,
bon, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'avais un papa qui chantait très bien.
Oui.
Et entre autres, une chanson, mais alors je ne connais pas le titre, enfin, celui qui chantait, « Je sais une église au fond d'un hameau ».
Je sais une
église. C'est Jean Lumière. Jean Lumière.
Ouais, très jolie chanson.
Jean Lumière. Oui. Voilà. Merci beaucoup, je vais le noter tout de suite.
Ouais.
D'accord. Bon,
ça s'appelle La Petite Église.
Je sais une église au fond d'un hameau. Enfin, je ne vais pas la chanter, mais enfin...
Oui, c'est Jean Lumière.
J'étais pas né à l'époque, mais... Alors, Mireille, voilà. Dites-nous.
Oui, alors, autrement, j'aime beaucoup Les Compagnons de la chanson.
Ah oui, Les Compagnons, oui.
Bon, oui. Nana Mouskouri.
Ah, oui.
La Rose de François Hardy.
Oui, très joli.
C'est pas d'elle, hein.
Non, elle a interprété.
Mon ami La Rose, c'était d'une jeune femme qui s'appelait Cécile Collier, et dont ça a été d'ailleurs le seul succès. Et bon,
s'inspirait de la poésie persane.
Voilà, et elle a été reprise ensuite par une chanteuse qui s'appelait Natacha Atlas. Et donc, elle a eu la chance, Cécile, d'avoir deux fois du succès avec la même chanson à 20 années d'intervalle.
Et
c'était bien parce que, bon, malheureusement, c'est sa seule chanson qui a connu qui a rencontré le public.
D'accord. Ouais. Alors, Les Compagnons de la chanson, oui, très bien.
Oui.
Jean Lumière, effectivement, La Petite Église. Je sais, c'est une église au fond d'un hameau. Oui.
Nana Mouskouri.
Oui, Nana Mouskouri. Alors, qu'est-ce que vous aimez avec Nana?
Dites-nous. J'aime beaucoup Liberté.
Merci beaucoup.
Ah
merci.
Oui, mais ça, c'est un certain monsieur Claude Lemel, ça, je crois. Hein.
Oui, c'est moi. Oui. Avec Pierre Delanoë.
Tous les deux.
Ouais.
Voilà. Bon, ben, ce sont les principaux. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres, mais ce sont les principaux. Papa avait entendu parler de Caruso, ça vous dit quelque chose, je suppose.
Oh, bah, évidemment. Bon.
Bien sûr. Et Marcel Merquès aussi.
Ah,
et Paulette Merval.
Ça, c'est l'opérette. Hein.
C'était un duo de chanteurs d'opérette.
Alors ça, c'est l'opérette, pour le coup, ça n'existe plus en termes de genre.
Ça pas été... Non, c'est la comédie musicale maintenant
qui a remplacé
l'opérette.
Oui. Ouais.
Bon, enfin voilà, l'essentiel de ce que je voulais vous dire.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mireille. Ça nous a permis de rebondir sur des grands interprètes. Françoise Hardy qui nous a quittés récemment. Oui, beaucoup de tristesse.
Et dont notre chorale chantait la chanson dont on parlait tout à l'heure.
Mon ami Larose.
Mon ami Larose. Ouais, très belle chanson.
Cécile Collier.
Ouais, très très belle chanson. Et Dana Mouskouri qui est une grande interprète, donc des gens très différents.
Magnifique. Elle a eu, je l'ai dit, elle a eu exactement 90 ans il y a 3 jours.
Oui, j'ai entendu ça. Ben, je ne suis pas très loin, j'en ai 88.
Ah ben voilà. Et ben bravo. Bravo voilà. Mireille. Bravo. Et continuez à écouter des chansons alors.
Oui, tout à fait. J'écoute RCF presque toute la journée.
Ah, et Radio Notre-Dame, hein, vous savez, nous sommes maintenant unis.
Oui, bien sûr, bien sûr, c'est la même chaîne.
C'est la même maison, mais oui, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Mireille de votre appel. Merci. En attendant d'avoir Catherine au téléphone, Claude, on parlait de transmission. Alors, comment transmettons cette passion pour les chansons, pour l'écriture de chansons? Et vous le faites déjà, vous le faites depuis longtemps. Alors comment ça se passe concrètement?
Il y a 37 ans que je le fais. Bah, je le fais parce que c'est un devoir de transmettre quand on a la chance, comme moi, de vivre depuis maintenant quasiment 60 ans d'un métier aussi improbable que le métier d'auteur de chansons. On est redevable à la vie de la chance qu'elle vous a donnée. Donc voilà, c'est un devoir pour moi de transmettre. Je le fais depuis donc 37 ans, bénévolement. Hein. Oui. Comment ça se passe, ça c'est très difficile à dire. Faut assister à mes ateliers parce que c'est très compliqué. J'essaie de faire progresser chacun dans son style, dans sa manière, dans sa personnalité. Il n'y a pas évidemment de règles, il n'y a pas de recettes. Je dis pas, tiens, mes enfants, pour écrire une chanson, faut faire ceci, ceci, cela. J'écoute les textes des uns et des autres et je vois les remarques qui peuvent les aider tous individuellement. Je vais pas faire à telle personne la même remarque qu'à telle autre. Parce que, bon, ce sont des personnalités différentes. Et ce qui peut aider l'un pourra, au contraire, nuire à l'autre. Ouais. Donc, c'est très délicat, c'est très compliqué. J'ai 9 ateliers sur toute la France, plus des ateliers ponctuels. C'est-à-dire qu'en gros, je fais travailler à l'heure actuelle à peu près 150 personnes. C'est
gens
pas
fidèles,
facile.
Hein, des gens qui viennent souvent.
Oui, il y en a plein qui veulent pas partir.
Comment ça, ils veulent pas partir?
Non. Il y en a qui sont là depuis très très longtemps.
Combien d'années, alors, le plus ancien?
Ah, mais il n'y a pas de limite.
Alors, par contre, ce sont des gens qui deviennent des amis, parce qu'ils viennent souvent.
Alors, ils deviennent souvent des amis. Oui. Et puis, bon, il y en a quand même beaucoup d'entre eux qui travaillent.
C'est comme une grande famille, on peut dire ça.
Oui, bien sûr. Bah, à force, bien entendu. Il y a pas que des liens d'élèves à maître qui
non.
Qui se, et évidemment.
Je tiens à dire que l'accueil est très très grande qualité. On a du café souvent. On est même servi. Je tiens à le dire parce que c'est tout à fait remarquable, je trouve, en termes d'accueil. Oui, mais c'est toute une manière d'être qu'on voit bien chez Claude et qui est très très agréable et c'est pourquoi les gens ne veulent plus partir.
En tout cas, je sais pas trop comment ça se passe ni comment je fais, mais ce qui est incontestable, c'est que ça les aide et qu'ils progressent. Et c'est ça qui compte.
Et puis il y a un vrai plaisir à se retrouver aussi. C'est une aventure humaine.
Ah bah ça oui.
Voilà.
Oui,
mais ça faut le dire aussi.
Toujours du plaisir à se retrouver.
Alors nous avons Catherine que nous allons prendre au téléphone, mais très rapidement. Ben Catherine.
Oui. Mais oui. Parce oui. Que le temps presse.
Alors Catherine, on a une minute et demie, dites-nous.
Oh là là.
Oui, oh là là, ça va être court, hein.
C'est court pour dire tout ce que je voulais dire. Bah, mais bon,
Tellement d'appels ce soir.
Et merci de me prendre à l'antenne. Hein. Alors, merci à tout le monde qui écoute et bonsoir à tout le monde. Hein. Mais je trouve merveilleuse l'émission et toutes les anecdotes sur les chanteurs ou plutôt des chanteurs que des femmes d'ailleurs, un peu plus des hommes que des femmes.
Bon, il y a eu les deux, hein. Nana Mouskouri, c'est pas un homme.
Non, j'ai écrit pour beaucoup de femmes. Il se trouve que moi je suis quelqu'un de très timide, donc je ne vais pas à la rencontre des gens. Les gens pour lesquels j'écris, c'est des gens qui me demandent, alors j'ai été plus demandé par les hommes que par les femmes, c'est tout. Je suis trop timide pour faire la démarche. Moi, j'ai jamais été proposé une chanson à quelqu'un. Jamais. C'est toujours les gens qui viennent et qui me demandent. J'ai beaucoup de chance. Mais il se trouve que parmi ces gens-là, il y a plus d'hommes que de femmes. Cela dit, quand même, bon, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Dalida, Isabelle Aubray, Nicole Croisille, Nicoletta, Nicole Rieux, et j'en oublie pas mal. Bon,
Rika Zaray,
Karen Cheryl,
Annie Cordier, je sais pas.
Douchka, Annie Cordier, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais il y en a, finalement, il y en a beaucoup.
Oui, il y en a quand même beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Et pas des moindres.
Sylvie Vartan.
Oui.
C'est là, non, c'est là.
Jamais. Bah voilà. Non, mais elle ne m'a pas demandé, c'est tout.
Et bah voilà. Et bah c'est là. Si vous nous entendez, il ne faut pas hésiter. Voilà.
Allô ?
Alors Catherine, dites-nous, rapidement, une petite question peut-être.
On n'oublie pas, tout le monde, Joe Dassin, j'adore. Enfin, on a chanté, avec chez mes parents, je veux dire, depuis ma petite enfance, je suis née en 58, depuis aussi mes 3 ans, on a toujours chanté chez nous, on aimait toutes les musiques, d'ailleurs classiques, jazz.
Alors Catherine, la petite question, parce qu'on va être pris par le temps. Dites-nous.
Oui, j'ai un taxi qui m'attend.
Oui, il y a un taxi qui arrive, il est dans le studio. Oui, dites-nous.
Claude Nougaro, qu'on n'oublie pas. Bernard Lavillier, qui est dévivant un petit peu. Oui. Catherine Rager.
Oui, magnifique.
La grande Sophie.
La grande Sophie, très bien, oui.
Actuellement, Clara Isée, qui est extraordinaire, je trouve. Clara Isée, je ne sais pas si vous avez écouté ses textes.
Je vais aller regarder, parce que je ne la connais pas très bien, Clara Isée. Non, je vais jeter un coup d'œil.
Qui est vraiment formidable dans les nouveaux, plus jeunes, hein. Bernard Lavilliers, évidemment.
Bernard Lavilliers, évidemment. On aimerait bien le recevoir ici, Bernard Lavilliers.
Bernard
Lavilliers. Grand chanteur, grand compositeur. Alors, Catherine, pas de question du coup. Non, pas de question.
Ma question, c'était. Je voulais témoigner que.
Ah, c'est pas un témoignage, c'est une question, parce qu'il n'y a pas le temps de témoigner. Alors, voilà. Alors, dites-nous, Catherine, une question.
Ça fait partie de notre vie de joie, de peine. Les chansons nous accompagnent dans tous les moments de notre vie. Et des souvenirs nous font revenir des souvenirs de l'enfance, de l'adolescence et de la vie adulte. Oui. Ou même avec nos enfants, nous chantons. Oui. Mes petits-enfants qui sont encore aussi. Voilà.
Alors Catherine, vous entendez le générique de l'émission, on va être obligé de clore malheureusement. On a bien compris Bernard Lavilliers, Bobby Lapointe, Claude Nougaro, la grande Sophie, des goûts très éclectiques et qui sont, tous les goûts sont dans la nature. Hein. C'est Dao qui chantait ça avec Dutronc, il me semble, il n'y a pas si longtemps encore. Hein,
c'était un peu plus trivial.
Oui, enfin, il faut trouver le truc. Alors, c'est une question d'angle, comme d'habitude. Alors, remerciements à Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission.
Merci,
à Jean-Paul Lérine qui l'a réalisé. À nos bénévoles ce soir qui ont pris vos appels. Catherine ? Non. Marité ? Je ne sais plus. On ne sait pas. En tout cas, vous les avez au téléphone et on s'est fait un plaisir de vous recevoir. Vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, extrêmement nombreux. Demain, Marie-Leïla Koussa sera à ma place et vendredi également. Je rappelle l'art d'écrire une chanson, Claude Lemel.
Chez Erol.
Chez Erol. Vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. L'art d'écrire une chanson, ce qui vous aidera, si vous vous sentez l'âme d'un poète, peut-être, de mettre votre écriture au service.
C'est un livre utile.
De la musique. Il paraît que c'est un livre très bien. Moi, je l'ai, c'est très bien. Et maintenant, je vous dis, je vous souhaite une très bonne nuit. Je remercie infiniment Claude d'être venu. Ça devient un ami de la radio.
Merci à vous. C'était un grand plaisir.
Ah, c'est toujours un plaisir immense. Et Claude est quelqu'un de merveilleux. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Adieu. Ah non, pas adieu. À bientôt. Et je vous confie à la prière de vos anges gardiens.
La matinale, Pierre-Hugues Dubois.
Ce jeudi à 8h10, retrouvez l'invité de la matinale avec Louis Dauphren. Nous recevons une personnalité au cœur de l'actualité qui viendra nous aider à prendre du sens, donner de la hauteur à l'information. C'est ce jeudi donc à 8h10.
Savez-vous que vous pouvez aider RCF tout au long de l'année grâce au prélèvement automatique ? En donnant mensuellement ou trimestriellement à votre radio, vous lui offrez les moyens d'émettre. Un don régulier suivant vos moyens, que vous pouvez stopper quand vous le souhaitez, est déductible à 66% de vos impôts. Pour recevoir le formulaire, envoyez votre demande à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05.
Vous écoutez RCF en Côte d'Or, à Dijon sur le 88.3, à Saulieu sur le 98.5, à Beaune sur le 102 FM et où vous le souhaitez sur rcf.fr.
RCF, la prière du soir. Prions avec les carmélites de Saint-Germain-en-Laye en région parisienne.
Seigneur, se trouve l'abondance du pardon. Tu es mon espérance. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus Christ est Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « La lumière brillera au milieu des ténèbres » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous, les apôtres, le portons en nous comme dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu.
Comme la Vierge Marie.
Saint, à la fin de cette journée, nous te rendons grâce de nous accueillir en ton amour. Tu vois ce que nous sommes. Mais souviens-toi que pour nous délivrer, ton Fils a traversé l'épreuve de la passion. Lui qui nous aime, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous te saluons.
C'était la prière du soir avec les Carmélites de Saint-Germain-en-Laye. Dans un instant, nous continuerons notre halte spirituelle de la semaine en compagnie de Véronique Elzieux.
Le père Raphaël Buise, prêtre du diocèse de Lille, qui est l'invité de halte spirituelle cette semaine, nous invite à essayer de reconnaître les signes de Dieu dans les toutes petites choses de la vie, du quotidien. On le retrouve dans quelques instants dans Halte spirituelle.
Halte spirituelle, présenté par Véronique Alzieux.
Votre livre, Raphaël Buise, s'attache aux petites choses du quotidien, aux replis de la vie, comme vous dites, où Dieu se dit finalement, il se révèle, et en même temps vous dites qu'il est toujours au-delà. Finalement, on ne peut pas saisir Dieu, il est insaisissable.
Dieu sera toujours insaisissable, parce que tous les mots qu'on emploiera pour le qualifier seront toujours des mots trop courts. Et si quelqu'un un jour vient me dire « mais Dieu c'est ça » ou « il est comme ceci » ou « il est comme cela », si quelqu'un vient enfermer Dieu, ça sera vraiment le signe qu'on lui a mal expliqué, quoi. Dieu sera toujours au-delà et nos mots seront toujours en deçà. Voilà, c'est... Il y a un très joli poème de Saint Grégoire de Nazianze, qui était un des premiers évêques de l'Église. Là. Toi, l'au-delà de tout, qui pourrait te nommer ? Tout nous parle de toi et tu ne te limites pas à ce que nous voyons, quoi. Tu es toujours au-delà. Quel esprit peut te saisir ? Dieu au-delà, tout le temps.
Alors, est-ce que ça n'implique pas un risque ? Celui de, justement, dans le quotidien, dans les petites choses, de chercher des signes partout ou de vouloir voir partout des signes de celui qui est insaisissable et dont la présence est tout sauf évidente.
Oui, il peut y avoir une recherche un peu gourmande de signes de Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit très nécessaire de chercher des signes de Dieu.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut toujours se tromper. On peut toujours projeter sur lui des choses qu'on aimerait entendre. Moi, je pense que, pour ma part, j'avoue que je ne cherche pas trop les signes de Dieu, ça ne m'intéresse pas trop. J'essaye simplement d'être un homme. Je pense que la plus juste façon d'honorer Dieu, si tant est qu'il faille l'honorer, ce que je crois quand même, la plus juste façon de rendre gloire à Dieu, c'est d'exister fortement, quoi. Et ça, il faut qu'on cède à ça. Et je pense que la chance de l'Église, c'est là qu'elle se joue. C'est qu'il ne s'agit pas de défendre une organisation, de défendre la foi. Ça, je trouve ça pas très intéressant, de partir dans des conquêtes. Non, ce qui nous est demandé, c'est dans une fidélité à cet homme de Nazareth, que nous croyons être la belle image de Dieu, c'est de nous apprendre à être humain, c'est de nous aider. C'est Madeleine Delbrel dont je parlais
dans
notre entretien là. Madeleine Delbrel, elle dit ce qui nous est demandé, c'est de nous aider à être bons comme des enfants du bon Dieu. J'ai l'impression, au plus j'avance dans ma vie de prêtre, au plus je pense que c'est ça qui nous est demandé. C'est pas tellement de rallier des gens à la cause de Dieu, c'est pas tellement de construire des communautés qui ceci, non. C'est de nous aider humblement à devenir bons comme des enfants du bon Dieu.
Dans quel but ?
Parce qu'il faut pas rater la vie.
Ça voudrait dire quoi, rater la vie ?
Ça voudrait dire passer à côté, ça voudrait dire rater la vie, ça voudrait dire rester un peu ratatiné sur soi-même, avec nos petites préoccupations, notre petit monde, notre petite recherche, notre petite auto, notre petite, nos petits bonheurs.
On est fait pour quoi, alors ?
Vivre, c'est faire vivre. On est vivant que si on aide d'autres à vivre. Je pense que la vocation première de l'être humain, c'est de faire vivre. Et en cela, d'être, on pourrait dire, co-créateur. On pense que, voilà, que notre... Enfin, en tout cas, moi, je pense ça, que notre vie, que ma vie, je la reçois d'un autre. Je ne suis pas la source de ma vie. Ma vie, je la reçois. Et je la reçois pour donner vie à d'autres.
Donc, pour reprendre le mot que vous utilisiez dans un précédent entretien, on est quand même fait... Enfin, ça suppose une certaine grandeur. Sinon, pour reprendre le titre de votre livre, c'est un peu rikiki, quoi. Être humain, les petites choses du quotidien, être bon comme des enfants du bon Dieu, c'est une belle vocation, une grande vocation ?
C'est une grande vocation, bien sûr. Alors, je peux bien sûr penser que je suis un conquistador qui doit partir au bout du monde pour sauver l'humanité. Enfin, moi, j'ai vécu un petit peu sur ce mode-là. Hein. Quand j'étais ordonné prêtre il y a 40 ans, je pensais vraiment que j'allais sauver le monde, hein, vraiment. Je pensais vraiment que j'avais une mission, que j'avais reçu une mission, quoi. Mais,
et plus du tout aujourd'hui?
Ma mission, elle est beaucoup plus simple que ce que je pensais. D'abord, j'ai découvert une chose que je ne savais pas, c'est que je n'ai pas à sauver le monde parce que c'est déjà fait. Donc voilà une chose en moi à faire. C'est pas moi qui vais sauver le monde, c'est fait.
Par qui?
Par le Christ, voilà, par le Christ qui vient sauver le monde. Alors sauver le monde, ça veut dire saluer le monde de la part de Dieu. C'est aussi ça, hein, le salut, c'est aussi du verbe saluer.
Ce que vous dites dans votre livre, voilà. Si le salut c'était un bonjour finalement.
Et bien voilà, c'est Dieu qui en Jésus vient saluer l'homme, qui vient entrer dans une alliance avec l'humanité. Voilà, donc c'est fait ça. Et mon travail, ma mission de prêtre, et ma joie d'être prêtre, et mon inquiétude, quelquefois, d'être prêtre aussi. Hein. Ça n'est plus de sauver le monde, c'est de permettre à ceux et celles que je rencontre, à travers de multiples rencontres, de devenir un peu plus eux-mêmes, quoi, en mémoire de cet homme qu'on appelle Jésus. Donc, ce qui m'importe, c'est pas de faire entrer des gens dans l'Église. C'est de permettre à des gens de découvrir qui ils sont, quoi.
On est Raphaël Buise. Est-ce que on pourrait dire que c'est comparable à, je sais pas, un cours d'eau qui serait encombré de cailloux, de vieilles branches, et il faudrait un peu débarrasser tout ça, quoi, pour que l'eau coule.
Alors moi j'ai une autre image. C'est l'image de la pêche. Je me souviens quand j'ai été ordonné prêtre il y a 40 ans sur mon image d'ordination et puis le texte qu'on avait pris ce jour-là pour l'ordination, c'était la pêche miraculeuse, vous savez, la pêche abondante. Je ne sais pas si elle est miraculeuse, elle est abondante en tout cas dans l'Évangile. Et j'ai pendant longtemps pensé que ce qui m'était demandé, c'était d'attraper des gens dans le filet de l'Église. Mais non! Il y a quelque chose qui s'est complètement changé en moi. Il s'agit pas d'attraper des gens pour les mettre dans un filet. Il s'agit de repérer les gens qui sont dans des filets et de les rendre aux eaux vives. Il s'agit de libérer.
De libérer, c'est ça.
C'est une pêche inversée.
Vous libérez les poissons, quoi.
Oui. Oui, oui. Oh oui. Oh oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. D'aimer plus que tout la liberté des personnes.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que s'opère nouvelle manière d'envisager les choses?
Il y a d'abord eu pendant des années des rencontres avec des gens que j'ai croisés qui me semblaient emberlificotés dans leur vie.
Prisonniers, quoi.
Prisonniers, emberlificotés, prisonniers, serrés, dans des filets comme des sardines dans une boîte, quoi. Voilà, des gens qui étaient un peu contraints. Bon, et j'ai toujours eu la passion d'aider les gens à déployer leur vie, à retrouver du souffle, quoi. Bon, il y a eu ça, et puis ça c'est depuis longtemps. Et puis il y a une petite dizaine d'années, un moment dans ma vie important aussi, c'est une expérience que j'ai été vivre dans un monastère bénédictin pendant une année. Là, je voulais goûter un peu à la vie monastique. Et pendant une année, j'ai rien goûté de Dieu. Voilà, pendant une année, plus rien, panne sèche, quoi, vraiment.
Vous avez vécu une expérience.
Ouais, voilà, et ça m'a permis de redécouvrir le Christ, vraiment. À défaut de rencontrer, à défaut de sentir Dieu, je me suis accroché à l'Évangile. Et c'est là que j'ai redécouvert la grandeur simple de Jésus. qui rend la vie, qui sort les gens de leur prison, qui sort les gens des déterminismes dans lesquels on les a enfermés ou dans lesquels ils se sont enfermés. Il libère. Quand on dit que le Christ libère, je crois vraiment qu'il libère l'homme.
Et est-ce que cette expérience-là vous a finalement permis de nouveau de goûter Dieu, comme vous dites ?
Oui.
Sous quelle forme ?
Sous une forme beaucoup plus simple. Dieu non plus comme un être extérieur à nous, omniscient, qui nous regarderait. C'est le Dieu dans lequel j'ai été élevé. Un Dieu qui savait tout, un Dieu qui avait un plan pour moi. Mais Dieu n'a pas de plan. Le seul désir de Dieu, si, et encore le mot il est court, ça veut dire quoi ? Mais gardons ce mot-là quand même. Le seul désir de Dieu, c'est que j'existe et que je devienne Raphaël. Et moi, je suis Raphaël, mais je ne connais pas encore tout à fait Raphaël. Je deviens Raphaël. Et je pense que le Dieu en qui je crois aujourd'hui, c'est cette espèce de puissance de vie qu'il y a en moi qui me pousse à devenir moi-même. Voilà. Non plus un Dieu extérieur, ça c'est une révélation pour moi de ces dernières années. Non plus un Dieu extérieur qui conduirait le monde, mais un Dieu qui laisse être. Oh, quelle bonne nouvelle.
À demain. Merci.
À demain.
Poursuivons notre fin de soirée en compagnie de Marie-Ange de Montesquieu avec son émission En quête de sens.
Glory, glory.
De 9h à 10h, c'est le débat du jour sur RCF et Radio Notre-Dame. Trois sujets d'actualité creusés avec notre équipe de débatteurs pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et donner du relief à l'information. Rendez-vous avec Louis Dauphren à partir de 9h.
Vous écoutez RCF à Bayeux sur le 90 FM.
toutes les actualités qu'on peut avoir, que ce soit nationale ou locale. C'est vraiment une belle façon de suivre l'actualité avec vraiment le regard chrétien, une façon vraiment à la lecture de l'Évangile. Et ça, c'est vraiment une très grande force pour nous au quotidien.
Si, comme Claire, vous pensez que RCF est essentiel pour vous informer, soutenez votre radio.
Votre don est déductible à 66% de vos impôts. Faites un chèque à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05.